Voilà, Daniel, je prends ma calculatrice, là, et puis je divise 1500 par 40, par 33. Ça fait 45,45. Ça veut dire 45,45 policiers par individu interpellé ce matin à Villiers-le-Bel. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Mais en même temps, ça fait moins que les 86 policiers qui entourent en permanence Sarkozy. Conclusion, c'est lui, et de loin, le plus dangereux. Allez, salut, c'était Jean-Claude de Seine-et-Marne.
Salut Hervé, lu aujourd'hui dans le journal Aujourd'hui en France, c'est absolument atterrant. L'animatrice de télévision Sophie Favier fait son entrée en politique à Neuilly. Elle a choisi de se présenter sur une liste de droite, celle de Bernard Lépidi, Génération Écologie. Elle est présentée comme une mère de famille attentive à l'éducation de son enfant et à sa sécurité, inquiète de l'ambiance qui règne dans l'environnement des collèges et des lycées de Neuilly. Ça doit être très dur à Neuilly, hein. C'est oulalalala. Ils vont peut-être avoir une descente de police comme ce matin avec plein de caméras, plein de CRS et de policiers. Voilà. Ciao.
Bonjour et merci à toute l'équipe pour vos émissions. Hein. Au sujet de la rafle qui a eu lieu, le procureur de la République du Val d'Oise déclare que le fait d'investir un appartement à 6h du matin dans le département par un millier de policiers avait été médiatisé car il s'agit d'une affaire grave, tire sur les forces de l'ordre. Alors, n'est-il pas grave quand des policiers en état d'ébriété viennent dans un restaurant indien, l'un pointe son arme sur la tempe du serveur. La balle est, paraît-il, partie. Serveur mené d'urgence à l'hôpital dans le coma. Au mieux, restera tétraplégique. C'est une annonce de votre chaîne faite à France Inter le lundi 4 février à 7h30. Annonce qui n'a pas été reprise par la suite, pas plus que par la presse, sauf quelques lignes dans l'IB du 5 février. Au sujet du parrainage de l'enfant juif mort maintenant, pourquoi pas à Rome, puisqu'ils se sont subis le même sort, sans oublier les enfants tués, mitraillés sur les routes de l'Exode. On se pose l'interrogation. Il semble malsain, à mon avis, de faire supporter ce choc par un enfant de 10 ans, susceptible d'avoir des problèmes dans son milieu familial, deuil, divorce, etc. Et plus judicieux de laisser le soin de rappeler l'histoire dans son ensemble aux enseignants, voire aux parents. C'est mon avis. Merci encore pour vos émissions. Hein. C'est Martel de Cahors. Au revoir.
L'opération de ce matin à Villiers-le-Bel est bien une rafle, puisque les fonctionnaires de police qui travaillent sous la botte de Nicolas Sarkozy ont agi sur délation. Voilà, c'est une petite précision que je voulais apporter. Allez, bon courage à tous, salut.
C'est trop rare pour ne pas le signaler. Pour une fois, une sortie réjouissante de Jean-Marc Sylvestre. Il chroniquait sur le salaire des fonctionnaires ce matin en expliquant qu'au final, les hauts fonctionnaires étaient les plus malins qui débutaient dans le public et allaient ensuite pantoufler dans le privé avec des salaires mirobolants. Pantouflage, demeurant demande, enfin il semble vouloir des précisions. Réponse du tac au tac de Jean-Marc Sylvestre. Demandez donc à votre invité de ce matin, Alain Minc, c'est un spécialiste. Jean-Marc Sylvestre flinguant Alain Minc. Jalousie ? Opposition de fond entre un adorateur du marché et un blairiste, ou simple détestation entre individus? Ben, on s'en fiche, mais ça nous a quand même fait sourire.
Ça fait des années que j'écoute le Bas si j'y suis, et grand, grand merci pour cette émission. C'était essentiellement pour écouter les commentaires que j'écoutais. Bien sûr, le sujet est très souvent intéressant, mais ces 10 minutes sont une bulle d'air dans notre journée. Dans un monde troublé où on s'offusque, qu'on se scandalise, où on remet en question les acquis sociaux qui ont demandé des générations de lutte, je crois qu'on essaye de nous les faire perdre, et ce retour en arrière est démoralisant. Écouter des jeunes qui voient clair, des ouvriers qui se révoltent, des anciens qui alertent, pitié, ne nous privez pas de ces 10 minutes que nous buvons comme du petit lait. C'était Yvonne du Pas-de-Calais.
Ah, que ça fait du bien, un message comme celui-là, chers AMG, dès le matin. Oui, dès le matin, car il est 8h, à Houston, Texas, là où nous nous trouvons, prêts à partir droit dans le mur. On va partir droit dans le mur avec Guy et Antoine. Et qu'est-ce qu'on va faire dans le mur? Eh bien, on va essayer de comprendre ce qui se passe entre le Mexique et les États-Unis. Là, on est du côté des États-Unis, mais on va passer du côté du Mexique. Vous le savez, sur plus de 3000 kilomètres, il y a une frontière qui se durcit de plus en plus puisque on y construit un mur pour séparer les torchons et les serviettes, les riches et les pauvres. Donc, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais ce qu'on pressent, c'est par exemple en ce qui concerne le narcotrafic. Le narcotrafic, vous le savez peut-être, se développe de façon très, très inquiétante et même paniquante au Mexique. Et donc, ce qui entraîne évidemment des exportations massives vers les États-Unis, qui est le premier consommateur de narcos au monde. Il faut savoir que 10 milliards de dollars passent chaque année des États-Unis vers le Mexique, dans le cadre de ce commerce, dans les poches des cartels de la drogue qui, au Mexique, se livrent une guerre monstrueuse. Mais il faut revenir à l'ALENA. Vous vous souvenez de l'ALENA, l'accord de libre-échange de l'Amérique du Nord, c'était en 1994. Des altermondialistes s'étaient dressés contre. On dit, oh, encore ceux-là qui sont jamais contents, qui sont contre le libre-échange. Eh bien, cet ALENA a voulu que les aides publiques à la production agricole mexicaine des petits producteurs soient supprimées. Et donc, les petits producteurs agricoles mexicains se sont reconvertis à la narcoculture. Et aujourd'hui, il y a 14 millions d'hectares de culture illicite au Mexique. 14 millions d'hectares de culture illicite en pavot, en marijuana, en opium, etc., qui évidemment remontent vers les États-Unis. C'est pas mal les conséquences d'une décision comme celle de l'ALENA que nous combattions en 94. Voilà, d'autres choses intéressantes et passionnantes, nous en sommes sûrs, nous attendent. Vous, ce qui vous attend, c'est le deuxième volet de ce reportage sur l'eau, sur la privatisation de l'eau en France, un sujet passionnant à en juger par les messages que j'ai reçus, que j'ai écoutés. Et donc voici encore quelques exemples au 01 56 40 37 37.
Merci de votre émission d'abord, mais moi je voulais vous apporter un témoignage en tant que grand-mère, c'est-à-dire que j'ai vécu la guerre toute petite, et j'ai un souvenir atroce de la place de la mairie du 18e avec des mères, des enfants dans leurs bras, de la police française, il n'y avait pas un Allemand, qui prenait les gamins, qui les aidait hurlements partout. Et moi, je sais que j'ai hurlé en disant à maman, mais fais quelque chose, fais quelque chose. Bien entendu, maman a fait qu'on est parti en courant. Hein. J'ai eu ensuite mon petit-fils qui, je ne sais pas où Sarko pense, mais il y a eu déjà dans les écoles primaires même des informations sur la Shoah. Et ces gamins, pourtant, s'étaient préparés très bien par l'instituteur. Ils ont fait des cauchemars pendant des nuits et des nuits. Alors, merci Sarko, tu réfléchis pas plus qu'une banane. Au revoir.
C'est Yves de Nice. Je viens rappeler à toutes les personnes de la région de Nice que mercredi 20 février à 19h, comme tous les troisièmes mercredis du mois, nous nous réunirons, les AMG de la région, au Woubel, près de la tête carrée, 2 avenue Saint-Jean-Baptiste. Le Woubel, 2 avenue Saint-Jean-Baptiste, près de la tête carrée. C'est très facile à trouver.
Bonjour, un petit mot pour vous signaler qu'on fait une réunion repère là-bas si j'y suis, au Billabong Café à Auray dans le Morbihan, jeudi prochain, donc le 21, comme le troisième jeudi de chaque mois. Alors cette fois-là, on va aborder avec Michel Portal la question de la politique citoyenne et de la politique partisane, c'est-à-dire comment peut-on parvenir à faire de la politique sans se retrouver finalement à avoir affaire aux partis, est-ce qu'on peut s'en détacher. Voilà, écoutez, j'espère que vous viendrez nombreux. Bises à tous et à bientôt. Salut.
Guadeloupe, Marie-Galante, Les Saintes, La Désirade, Saint-Barthélemy ou Saint-Martin. Regroupées en un département d'outre-mer depuis 1946. Ces îles que les hasards de l'histoire, en fait française, dès 1635, ont un passé violent, douloureux, marqué par l'anéantissement des Amérindiens, puis par la traite de milliers d'Africains, vers les plantations sucrières jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1848. Anéantie par la colonisation européenne, ces civilisations amérindiennes insulaires ont pourtant constitué le socle des cultures créoles contemporaines. C'était dans le livre Guadeloupe amérindienne, guide archéologique de France. Monsieur le Président, doit-on rajouter les Amérindiens et les Africains dans les cartables de nos enfants? C'était une maman de Guadeloupe. Merci.
Est-ce qu'on fait payer l'air en France? Pas pour l'instant. Aux États-Unis, l'eau est une affaire municipale. Il n'y a pas d'eau privée aux États-Unis. Il ne me semble pas que les États-Unis soient un exemple de gauchisme exacerbé.
Donc là, vous avez une facture, mais c'est une facture municipale.
Ah oui, c'est la municipale. Alors maintenant, vous voyez, toute nouveau net, je ne paye que 50 euros.
Donc vous avez divisé votre facture par 3, presque.
Ah oui, facilement. Facilement.
Bon, moi, je vous dis, aujourd'hui, je ne ferai pas marche arrière. Je ne reviendrai pas dans le privé. Parce que, je vous dis, vous avez affaire à des banquiers. On travaille... c'est des banquiers qui dirigent des sociétés. Comme je vous disais, on leur parle d'une bouche à clé, d'une vanne, d'un tuyau, de polyéthylène ou PVC. Ils vous regardent avec des... On est carrément à l'autre bout de la réalité, quoi. Voilà. Et tout ça pour satisfaire des actionnaires derrière.
Veolia. Rennes, c'est Veolia Town, quoi.
Sur Rennes, en fait, on s'aperçoit qu'ils ont la moitié du chauffage urbain sur Rennes. Ils détiennent l'eau, on l'a dit. Une partie à travers le jeu des filiales aussi, des transports donc de bus. Netraonic, c'est-à-dire tout ce qui est déchets. Et l'usine de tri des déchets. Donc, je ne sais pas si on se rend compte que là, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui reste aux citoyens, aux élus ?
Veolia, l'environnement est un défi industriel.
Et là-bas, si j'y suis, est un défi radiophonique quotidien avec François Ruffin, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, la remunicipalisation de l'eau.
Flight number 2, arriving from New York.
Après une bonne douche avec l'eau Vivendi, je me rends au centre de Nice. Pressé, je laisse ma voiture en double file pour une course. De retour, plus de voiture. Elle est partie à la fourrière Vivendi. Pour la récupérer, je bondis dans un bus Vivendi. Et de retour, je me gare dans un parking souterrain Vivendi. Là, de la circulation, je prends un bus des rapides de Côte d'Azur Vivendi et reviens par le chemin de fer de Provence Vivendi. Rentrant chez moi, je descends la poubelle qui pourra être ramassée par Vivendi, puis brûlée à l'Ariane dans l'usine d'incinération Vivendi. La chaleur récupérée sera distribuée par le chauffage urbain Vivendi et j'ouvre ma télévision branchée sur le câble Vivendi, bien sûr, etc., etc., etc. C'est un petit texte écrit au temps de Vivendi, puisque aujourd'hui, tout ça, ça a changé. Mais enfin, bon, ça s'appelle Veolia, ça porte des noms différents. Et ces noms, ces mots ont une histoire française, une histoire liée à notre histoire. Marc Lémé, qui était journaliste et un bon spécialiste de ces histoires d'eau, nous a raconté comment cela remonte au 19e siècle sous Napoléon III, ces grandes compagnies, la Compagnie Générale des Eaux, la Lyonnaise des Eaux, Suez, Ondéo, et puis la Sor, c'est-à-dire Bouygues. Ces grandes compagnies avec leur histoire propre, on le voit là, la concurrence est quand même extrêmement réduite parce qu'on nous dit oui mais le consommateur profite de la concurrence. Eh ben pas tellement pour ce qui concerne en tout cas les services de l'eau, mais on voit qu'à travers l'eau et par le moyen de l'eau, ces compagnies sont devenues des compagnies multinationales planétaires et ont étendu leurs activités à des quantités de branches qui vont jusqu'aux médias. Qui vont jusqu'aux médias, télévision, presse, etc. Ce qui explique peut-être que nous soyons finalement assez peu sensibiliser au problème auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui, et cela au moins pour deux raisons, parce que ou bien ces grandes compagnies sont propriétaires directement de certains médias, télévision, ou bien et presse écrite, ou bien, eh bien, sont des annonceurs. Et on ne faut pas fâcher trop un annonceur. Oh, bon, on va pas se fâcher avec un annonceur qui achète des espaces publicitaires qui font vivre, eh bien, les médias. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles nous continuons aujourd'hui à nous intéresser à donc cette remunicipalisation, c'est-à-dire, on l'a vu hier dans la Creuse, cette petite association qui a regardé les factures de près à la loupe, qui s'est mobilisée et qui a fini par obtenir la remunicipalisation de la régie de l'eau, c'est-à-dire la réduction du montant des factures, parce que c'est quand même ça le but et c'est quand même ça le plus important. Mais on va voir que c'est pas le seul endroit. Il y a des villes, des régions qui sont en voie de remunicipalisation de l'eau. Et peut-être, on va le voir, peut-être un beau jour, Paris. Et oui, peut-être que Paris va reprendre le contrôle de l'eau, de la gestion de l'eau dans notre bonne ville, ce qui serait évidemment un exemple pour la planète tout entière, tant nous sommes exemplaires, nous autres Français. Voilà ce qui va nous intéresser, nous préoccuper jusqu'à 16h dans la Bastille, j'y suis.
Peut-on vivre en se répétant tous les matins qu'on aimerait bien, qu'il faudrait bien, que si les choses avaient été autrement, alors bien sûr la vie qu'on mène aurait été bien plus belle, plus confort et pourquoi pas bien plus, hein. Faire semblant comme si tout allait bien en attendant la fin de la journée ou de l'année, quel est celui qui laisse passer, se contente de vivre dans l'illusion d'un bonheur qu'il consomme et l'assomme, quel est celui qui laisse passer. Avec assurance et prestance, quand on traîne sur sa face les traits de celui qui n'a plus faim. Combien de temps peut-on vivre en espérant tous les jours que demain sera bien, si complice de la manœuvre on ne cesse d'alimenter la machine. Trancher bien sûr on y arrivera, mais faire l'amour, combien de temps cela peut-il durer, quand d'échec en défaite on finit par croire qu'on est vraiment le dernier des... Chaque matin c'est le grand jour, tombe la nuit, rien n'a bougé. Peut-être demain seras-tu celui qui décide enfin de ne plus laisser filer ces années qui passent. Comment marcher avec assurance et prestance, quand on traîne sur sa passe les traits de celui qui n'a plus faim. Dans le même sac, nous sommes tous dans le même sac. Tous dans le même sac, nous sommes tous dans le même sac. Difficile de s'extraire et passer la frontière. Ton histoire disparaît, tes repères sont éclatés. Tu es désormais paré pour le grand mystère de la vie et tes amis ne comprennent quel sera ton chemin, car nul ne le sait.
Merci. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Merci de faire que ce jour soit le plus beau jour de notre vie. Merci pour tout. Et merci à l'eau du robinet.
Eh oui, l'eau du robinet, c'est aussi pour la vie. Alors tous les jours, les entreprises de l'eau avec les mairies nous délivrent une eau du robinet que nous pouvons consommer en toute confiance.
Merci. Merci pour l'eau.
C'était un message des entreprises de l'eau avec l'Association des maires de France.
Voilà, c'est sympathique, ces publicités que vous entendez actuellement sur France Inter, les entreprises de l'eau avec les maires de France. Voilà, on dit, bah voilà, ça c'est bien, au moins ça c'est bien. Oui, enfin, c'est quoi les entreprises de l'eau ? Eh bien, c'est ce dont je viens de parler, c'est-à-dire ces trois énormes multinationales qui, depuis bien longtemps, ont accaparé la gestion de l'eau dans notre pays. Et c'est cette gestion jugée opaque, jugée bizarre, très mal jugé par certains, et qui fait l'objet de contestations et d'une remunicipalisation de la régie de l'eau par les maires en question, bien souvent. Donc, vous voyez cette réclame que vous entendez le matin sur notre chère radio en vous rasant ou en faisant... Le petit déjeuner de vos enfants n'est pas tout à fait dépourvu de signification. Voilà. Donc, on va essayer de préciser un petit peu les choses et revenir sur cette remunicipalisation. Vous avez l'impression que ça y est, hop, le retour au service public généralisé à travers le pays. Je sais que c'est quelque chose que certains auditeurs de la Basse-Ligée, je crois le comprendre, en seraient bien aise. Voyons un petit peu où on en est avec Marc Lémé, qui est journaliste, spécialiste de ces questions d'eau et de remunicipalisation de l'eau, et auteur au Seuil, en 2003, d'un ouvrage intitulé « Dossier de l'eau, pénurie, pollution, corruption ».
Alors, ce qui se passe en France depuis maintenant 4 à 5 ans, disons, c'est qu'il y a eu une forte mobilisation des citoyens. Alors, des associations dans des petits villages, dans des plus grandes villes, des associations de défense de l'environnement, des élus aussi. Même les élus sont de plus en plus informés des dérives du système. Et comme il y a une pression financière de plus en plus importante, vous ne pouvez pas, les yeux fermés, laisser les entreprises augmenter le prix de l'eau à l'infini, etc. Les gens qui vous ont élus vont vous rappeler à l'ordre au bout d'un moment. Donc ça devient très sensible pour les élus aussi.
Tous les éléments sont rassemblés là pour un retour...
Non, je dirais pas, non, faut pas exagérer, parce que statistiquement aujourd'hui, il y a aujourd'hui 9000 contrats en France. On est dans une période de renouvellement de 5 à 600 contrats par an. On est encore aujourd'hui dans un système où 95% de ces contrats sont reconduits au même délégataire. Si c'était Veolia qui était là depuis 30 ans, c'est lui qui continue. 2 ou 3%, ça passe de Veolia au Suez, ou l'inverse. On a une toute petite minorité de contrats qui sont impartis à des toutes petites entreprises locales, etc. Et les retours en régie se comptent encore sur les doigts d'une main. Sauf que c'est très emblématique, très fort, à chaque fois que ça se passe, il y a un véritable impact sur la population, parce que ça se traduit, c'est imparable, hein, très souvent une diminution du prix de l'eau, parce que les bénéfices servis aux actionnaires disparaissent, une amélioration du service à l'usager, parce qu'il y a moins de taux de fuite, il y a un meilleur entretien, il y a davantage de renouvellement des infrastructures, donc localement, ça fait de l'effet. Et donc, quand une ville a accompli ce boulot-là, tout le monde constate, donc ça fait un peu tache d'huile, quoi.
Alors, comment vous expliquez le décalage entre seulement 2% des contrats qui passent du secteur privé en régie publique ?
C'est vrai qu'il y a une mobilisation citoyenne depuis plusieurs années, mais sont dramatiquement absents les syndicats, les partis politiques, l'université, le monde de la recherche, qui n'accompagne pas ce mouvement de retour à une gestion publique. On a là vraiment des grands absents, des muets du sérail. Alors je vous laisse le soin de tirer les conclusions de leur absence et de leur silence. Il n'y a pas un parti politique qui ait vraiment, mais sérieusement, mis ça au premier plan de son projet. Il n'y a pas un syndicat qui s'engage réellement en ayant travaillé pour un retour à une gestion publique de l'eau. L'université, elle n'est pas là. Les labos universitaires travaillent, notamment pour ces entreprises, le plus souvent. Donc ce sont quand même des acteurs de poids qui ne prennent pas vraiment position.
Et ça date pas d'hier, 20 décembre 1910, dans le journal L'Humanité de 1910, on pouvait lire ceci. Les hommes de la Compagnie Générale des Eaux sont des financiers d'envergure. Si c'est pour les Parisiens une consolation d'être rançonnés par des chefs de grandes bandes, ils ont lieu de se consoler. Ils sont du reste logés à la même enseigne que les habitants de Lyon, Nantes, Nice, Rouen, Arcachon, Rennes, Arras, Boulogne, Lisieux, Ancenis, Toulon, Villefranche et Morlaix. Sur qui la Compagnie Générale prélève sa dîme? Ils sont à la même enseigne que les Italiens de Venise, la Spezia, Vérone, Bergame et Naples, que les Portugais de Porto, que les Suisses de Lausanne et que les Constantinopolitains, sur qui la Compagnie Générale des Eaux pour l'étranger, filiale de la nôtre, étend sa domination. Ce qui doit surprendre, ce n'est pas que les financiers volent, ils font leur métier. Ce n'est pas non plus que les fonctionnaires les servent. Ce qui doit surprendre, c'est que les peuples qui payent consentent à se laisser voler éternellement. C'est qu'ils se laissent gruger par des conseils municipaux comme le nôtre et par des préfets comme de Selve en des flibusteries semblables à l'opération aquatique qui s'accomplit en ce moment. 1910, formidable. Donc la bataille de l'eau est une vieille histoire et Marc Lémen nous l'a dit hier, une histoire plutôt française puisque à 90%, je crois, dans le monde, ou même davantage, la question de l'eau qui n'est pas un produit comme un autre, est une affaire publique, est une affaire de contrôle par l'État et par la puissance publique. Bien évidemment, c'est donc une affaire française qui est en train de bouger dans les profondeurs et dans les replis et dans un certain silence, il faut bien le dire, de notre beau pays. Et là, on va à Neuchâtel. Et ça tombe bien, Neuchâtel, c'est dans les Vosges, et c'est Oudon, entre Contrexéville et Vittel. Oui. Et là, on va rendre visite au maire de Neuchâtel, qui a remunicipalisé la régie de l'eau. Mais auparavant, nous nous arrêtons à la station d'épuration de Neuchâtel.
Là, il y a un bulldozer qui sort de la station d'épuration. Dans un bureau au premier étage.
Oui, donc c'est le bureau de contrôle de...
Bonjour, monsieur.
Du chef de station, Bernard Mire.
Là, vous portez un petit badge, c'est quoi? Enfin, un autocollant, c'est quoi?
Réan. C'est la régie des eaux et de l'assainissement de la ville de Neuchâtel.
Donc c'est votre employeur aujourd'hui?
C'est mon employeur, oui.
Et auparavant, vous avez travaillé pour qui alors?
Pour Général des Eaux.
Donc vous êtes passé du privé au public?
Je suis passé du privé au public, oui, bien sûr. Oui. Pour nous, c'est beaucoup mieux, quoi. Hein. C'est beaucoup mieux, on travaille sur un site, on n'est pas sur une dizaine de sites quoi, par jour, quoi. Par jour ou dans la semaine.
Une dizaine de sites, vous aviez
même plus. Oui, les semaines d'astreinte, on visitait plus de 10 sites dans la semaine. Ouais.
Pourtant, quand on regarde les comptes de résultats que remettait Veolia à la mairie de Neuchâtel...
Ça, c'est de l'administratif, ça.
Oui, mais il était indiqué qu'il y avait 15 personnes qui travaillaient à Neuchâtel.
Ah, oui, ben, moi, j'ai pas passé ma vie à Neuchâtel. Hein. Je regrette, hein. Je peux vous faire toute la liste des sites que j'ai visités. C'est moitié du département, quoi.
C'est-à-dire qu'ils inscrivent 15 personnes sur Neuchâtel, mais en vérité, il y en a combien, alors?
3 ou 4, et encore.
Et donc, au niveau des canalisations, des investissements, comment ça se déroulait à ce moment-là?
Ah ben, c'était... Moi, je pense que c'était le minimum vital pour que ça fonctionne, quoi. Il n'y avait pas ce qui doit être fait, quoi.
Et ça, quand vous le disiez à la direction...
Nous, on n'avait rien à dire à la direction. Non, non. Rien à dire avec la direction, on était des exécutants. C'était pas notre boulot. Hein.
C'était pas votre travail de regarder s'il y avait de l'eau qui fuyait?
Ah ben nous, on calculait pas les rendements, non, non.
Alors évidemment, on le voit, c'est une histoire ancienne, c'est une histoire d'emboîtement très ancien entre les pouvoirs économiques, en l'occurrence et politiques, mais sauf que entre les municipalités et ces grosses entreprises, les jeux ne sont pas égaux quand il s'agit de discuter de contrats, de chiffres, de gestion, avec la meilleure volonté du monde et les meilleures qualités du monde, un maire, son conseil municipal ne sont pas forcément toujours les compétences pour ces questions très techniques et très comptables en même temps. Ces grosses compagnies disposent d'armées d'avocats, de conseillers juridiques, financiers, etc. Et puis déploient aussi des opérations de charme, des pressions de toutes sortes et en échange des signatures de contrat au titre de droit d'entrée pour obtenir ces gestions, eh bien font des cadeaux aux mairies qui sont, on le disait hier, qui sont parfois très très profitables à la collectivité et qui font plaisir aussi à tout le monde parce que ces améliorations des équipements municipaux ne sont pas forcément accompagnées d'augmentation d'impôts. Alors eh bien les administrés sont heureux, sauf que ces augmentations, enfin ces dépenses, elles figurent sur la fameuse facture d'eau. Alors peu à peu on s'en est aperçu, et c'est une des raisons pour lesquelles certaines municipalités, villes parfois importantes, je pense à Cherbourg par exemple, ou des régions entières comme les Landes, vont vers cette remunicipalisation. En tous les cas, c'est le cas de la ville de la bonne ville de Neuchâteau, dont le maire nous reçoit, Monsieur Jacques Drapier.
Quand je suis élu en 89, donc pour la première fois, comme tous les maires de France, je le sais, on vient avec un programme. Et on s'aperçoit, des temps aux affaires, que notre programme n'est pas réalisable dans le délai, en tous les cas, c'était notre situation à nous. Et très simplement, on peut dire simpliste, parce que je le pense maintenant, c'est vrai, c'est une erreur que j'ai faite. Je me dis que pour avoir un peu d'oxygène financier, je vais privatiser l'assainissement. L'eau était déjà privatisée. Puisque j'ai un état des lieux qui me laisse à penser qu'il y a beaucoup de travaux d'assainissement à faire, que ça va me bouffer, parce que c'est moi l'impression, une part importante de mon budget, avec laquelle je peux faire d'autres choses. Donc, je privatise l'assainissement. Tout le monde a privatisé. Les communistes, jusqu'au RPR de l'époque.
Et est-ce que vous faites payer un droit d'entrée à Veolia à cette époque-là, enfin à Vivendi?
Alors, c'était effectivement légal, j'insiste bien, avant la loi Berry-Levoix. J'ai été très modeste, j'aurais demandé de financer une partie d'infrastructures routières, hauteur de 500 000 francs à l'époque, alors que la plupart de mes collègues demandaient beaucoup plus cher, 7-8 fois le prix, voire plus, 10 fois même. Bon, c'est tout. Aujourd'hui, ça m'a donné aussi beaucoup de liberté, à tout point de vue, parce que pour se séparer de ces gens-là, il faut d'abord être un homme libre.
C'est-à-dire que vous avez fait financer quoi, concrètement, avec...
Un rond-point, la planète qui est là. Et...
L'eau était déjà confiée à Veolia. Vous confiez en plus l'assainissement à Veolia. Vous êtes revenu sur cette décision?
Tout simplement, quand je m'aperçois que le prix de l'eau augmente tous les ans et que je ne maîtrise rien. Je ne maîtrise même pas les informations, puisqu'on me les donne de manière à ce qu'elles soient illisibles, enfin, je veux dire, en termes de compréhension. Très, très vite, je me suis aperçu qu'ils nous roulaient dans la farine, n'est-ce pas? Les travaux n'étaient pas faits comme on le souhaitait. Donc, il n'y avait même pas le respect du contrat qu'ils m'avaient fait signer. En droit public français, vous pouvez casser un contrat de ce genre d'allégation, ce que j'ai fait.
Mais est-ce qu'ils ont tenté de faire pression sur vous ou de vous acheter?
Oui, oh, bah, écoutez, ça, c'est, je pense que c'est classique, mais moi, je ne suis pas très important dans leur panel. Ils ne m'ont pas proposé des choses extravagantes, mais quand même, des petits colloques sur la culture, avec la personne de mon choix. Bon, bref, tout ça, des choses qui m'ont permis de les mettre à la porte de mon bureau.
C'est-à-dire, ils vous offraient des voyages?
Des colloques, des voyages, mais moi, je n'y suis rien. J'imagine qu'ils doivent proposer à des maires de grande ville. Si vous voulez, ce qui est extravagant dans cette histoire, c'est le comportement de ces gens. Moi, petite commune, 8900 habitants, etc. C'est leur arrogance complète. Ils se croient investis de par l'argent, monsieur, d'une espèce d'impunité. Ils ont eu tellement l'habitude d'être protégés par tout le monde. Toutes tendances confondues, hein, soyons clairs. Je ne suis pas ici ni porte-parole d'un parti, ni quoi que ce soit. Et l'expérience m'a appris que, quel que soit le parti, vous êtes assez peu défendu dans ce genre d'affaires.
Enfin, quand ça s'est de nouveau transformé en service public, le prix de l'eau a augmenté ou le prix de l'eau a baissé ici?
Deux choses. On a baissé le prix de l'eau de 1 euro. 1 euro, première année. On a fait, je parle en francs là, 7 millions de travaux et on est bénéficiaire de 2 millions de francs. Donc on baisse, on fait 7 millions de travaux et on fait 2 millions de bénéfices. Parce que nous, en plus, on a fait les travaux que eux n'avaient pas fait. Mais aujourd'hui, si nous étions restés avec eux, les néocastriens paieraient l'eau 4,76 € alors qu'ils sont aujourd'hui à 2,98 €. Bah écoutez, c'est pas la peine de faire de grands discours. Et l'objectif à atteindre, ce serait d'arriver à 40 litres d'eau gratuite par personne, par néocastrien, et par jour. Pourquoi?
Vous voulez qu'il y ait 40 litres de gratuit par personne et par jour.
Par jour. Pourquoi ? Parce que l'eau, monsieur, que vous soyez pauvre ou riche, vous devez pouvoir vous laver, prendre votre douche et boire un coup le plus bas possible. Parce que c'est une donnée de la nature.
Vous êtes au Parti Socialiste ? Oui. Vous êtes membre du Parti Socialiste.
Oui.
Comment ont réagi les autres maires, les autres, quand vous leur avez dit que vous alliez tenter de remunicipaliser l'eau ou d'en faire à nouveau un service public dans votre ville?
Il y a deux manières de voir les choses. Je pourrais dire qu'ils n'ont pas réagi, ce qui est déjà significatif. J'aurais tellement aimé qu'ils me soutiennent. Mais certains m'ont appelé en me disant, écoute, tu crois pas que ça va me poser des problèmes? Bon, mets un peu la pédale d'eau là-dessus. Comme tous les partis, le Parti Socialiste a sans doute, j'imagine, été financé par ces gens-là. C'est vrai que l'année dernière, quand Daniel Mitterrand et quelques-uns dont j'étais voulu faire une conférence de presse sur la gestion de l'eau municipale pendant le congrès des maires, à Porte de Versailles, à Paris, le mois de novembre, eh bien, pour des raisons, si j'étais foutu, je vous dirais que j'ignore, mais bon, c'est évident, c'est grossier, c'est tellement énorme, on n'a pas pu avoir de salle. Bon, voilà.
Il n'y avait pas de salle, il manquait de salle.
Pas de salle. Au la porte de Versailles, la position de Versailles, il n'y avait pas de salle pour nous.
Et qui finançait ce congrès des maires l'année dernière?
À votre avis? L'enfermier, donc.
C'est-à-dire que Veolia, Suez.
Ils sont pas de. Oui, Veolia, Suez.
Et la SOR ont financé le congrès des maires?
Pour une grande partie. Ceci étant, vous savez, quand le président de la République argentine se sépare de Suez, eh bien, écoutez, l'ambassadeur de France, monsieur, fait une réception à Buenos Aires. Pour se plaindre du départ de la Suez.
C'est-à-dire que là, l'ambassadeur est moins l'ambassadeur de France que l'ambassadeur...
Eh bien, c'est l'homme de Suez. Tout le monde a privatisé. Mais en même temps, aujourd'hui, tout le monde fait le chemin inverse. Enfin, on s'interroge partout, vous savez.
Comment vous voyez que tout le monde s'interroge?
Parce que j'y reçois. Parce qu'on en reçoit énormément. Énormément, toute l'année. Qui viennent en stage, qui viennent voir comment on a fait. Parce que, non pas qu'on veuille être le modèle. Moi, je prétends rien du tout. Sauf à une seule chose. Que mes consommateurs payent l'eau à son juste prix. Parce que l'eau n'est pas une marchandise. Que l'eau est un coût, évidemment l'eau a un coût. Parce qu'il faut entretenir les réseaux, etc. Mais qu'on se fasse une marche, on se fasse du fric avec de l'eau, est-ce qu'on fait payer l'air en France? Pas pour l'instant. Aux États-Unis, l'eau est une affaire municipale. Il n'y a pas d'eau privée aux États-Unis. Il ne me semble pas que les États-Unis soient un exemple de gauchisme exacerbé.
C'est électoralement rentable aussi de mener cette bataille de l'eau quand on est maire?
Bon, si c'est le seul objectif, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un plus. Bon, c'est quand même intéressant. Que voulez-vous? Quand vous dites aux gens que vous allez leur baisser le prix de l'eau, ça ne peut que les intéresser, de mon point de vue. Il n'y a pas besoin d'avoir fait les sciences pour comprendre ça. Donc effectivement, c'est intéressant.
Choisissons,
que c'est nous qui tournons.
Choisissons,
que c'est nous qui volons.
Choisissons,
que c'est nous qui atterrissons.
Choisissons,
que c'est nous qui choisissons.
Choisissons,
que le ciel est au plus bas.
Méfie-toi, méfie-toi.
Que c'est lui qui fait la loi.
Méfie-toi, méfie-toi.
Que le loup entre toi et moi.
N'y sois pas, n'y sois pas.
Méfie-toi, méfie-toi.
De ce qu'on raconte là.
Méfie-toi, méfie-toi.
De ce qu'on raconte là.
Méfie-toi, méfie-toi.
Tu commandes du pourquoi.
Méfie-toi, méfie-toi.
Et ça te regarde pas.
Méfie-toi, méfie-toi.
Reste quand bien chez toi.
Méfie-toi, méfie-toi.
Tant toujours pas chaud là-bas.
Méfie-toi, méfie-toi.
Tant toujours pas chaud là-bas.
Quand on cause, c'est cause, c'est pas du qui fait la cause, il nous causera. Quand cause, sans cause, il a quitté quand mon fils a.
Et que c'est nous qui tournons rond.
Choisissons.
Et que c'est nous qui grandirons.
Choisissons.
Et que c'est nous qui polluerons.
Choisissons.
Et que c'est nous qui choisirons.
Choisissons.
Vu qu'on ne sait pas, mais on y va.
Méfie-toi, méfie-toi.
Vu que t'es plus haut que le bas.
Méfie-toi, méfie-toi.
Quand le vent nous portera.
Méfie-toi, méfie-toi.
Méfie-toi, méfie-toi.
De ne pas finir aux abois.
Méfie-toi, méfie-toi.
De ne pas finir aux abois.
Méfie-toi, méfie-toi.
Tu commandes du pourquoi.
Pour quoi que quoi.
Méfie-toi, méfie-toi.
Méfie-toi, méfie-toi.
Tes carottes au petit pois.
Méfie-toi, méfie-toi.
De ce qu'on raconte là.
Méfie-toi, méfie-toi.
De ce qu'on raconte là.
Le prix de l'eau à Paris est-il oui ou non surfacturé?
C'est la question que se pose la Chambre régionale des comptes dans une lettre d'observation provisoire, une lettre que publie ce matin le Canard enchaîné. Selon les magistrats, le montage administratif, juridique et financier du marché de l'eau dans la capitale se caractérise par son absence de transparence. Un marché que se partagent à Paris deux opérateurs, Vivendi et La Lyonnaise. Et pour la Chambre régionale des comptes, les chiffres fournis par ces deux groupes ne permettent pas de déterminer avec précision le montant de leur rémunération et de leurs bénéfices. La Chambre souhaite obtenir des éclaircissements afin de savoir si oui ou non certaines sommes ont été dissimulées afin de surfacturer les prestations aux Parisiens. La mairie de Paris, La Lyonnaise et Vivendi n'ont pas souhaité réagir à ce sujet. Les réponses qui seront apportées à la Chambre régionale des comptes seront consignées dans une lettre d'observation définitive, laquelle sera publiée en mai, avec cette fois des conclusions et des réponses.
Voilà, c'était en février 2000, cette information effectivement publiée dans le Canard enchaîné, les mille et une recettes des marchands d'eau pour siphonner les finances des Parisiens, par exemple. On s'était aperçu qu'entre 1990 et 2000, le prix de l'eau payé par les Parisiens avait augmenté de 123%. 123%. Ah, ah, ah. Un peu curieux. Alors, est-ce que vous êtes Vivendi? Si vous êtes parisien, vous êtes Vivendi ou lyonnaise? Eh ben oui, selon que vous habitez la rive droite ou la rive gauche, vous êtes Vivendi ou lyonnaise, parce que ces deux grandes sociétés, grandes multinationales, se partagent la ville de Paris. Mais oui, c'est ainsi. Et il y a parmi ceux qui essayent de nous sensibiliser à ces questions, Jean-Luc Touly, qui sait vraiment, vous allez voir de quoi il parle, et qui est l'auteur chez Fayard d'un livre intitulé « L'eau des multinationales, les vérités inavouables ». On est avec lui, Jean-Luc Touly.
Là, ici, on se trouve sur la berge Veolia ou sur la berge Suez ?
La berge Suez. De l'autre côté de la Seine, c'est la berge Veolia. C'est-à-dire que la partie nord de Paris est donc gérée par une filiale de la Compagnie Générale des Eaux qui s'appelle la Compagnie des Eaux de Paris. De l'autre côté, c'est l'entreprise Suez-Lyonnaise des Eaux par une filiale qui s'appelle la Parisienne des Eaux, Eaux et Forces. Jacques Chirac a souhaité privatiser pour à la fois avantager ses amis, puisque Jérôme Monod, qui était le PDG de Suez à l'époque, est aujourd'hui son conseiller spécial pour les questions de l'eau. Et d'autre part, il avait de très très bons rapports avec la direction de la Générale des Eaux, qui est devenue Vivendi, maintenant Veolia. Il faut savoir que ces deux entreprises finançaient beaucoup les partis politiques jusqu'en 1993. Et donc probablement, il y a un lien de cause à effet.
Comment a évolué le prix de l'eau depuis la privatisation en 1985 ?
Il n'a cessé d'augmenter, notamment dans la dernière décennie 90-2000, où il a augmenté de près de 130%.
130% sur 10 ans ?
Sur 10 ans. C'est pour ça qu'on se bat pour qu'à la mairie de Paris, qui est un symbole, puisque c'est la capitale, donne l'exemple à la fin 2009, mais la décision va être prise l'année prochaine, pour qu'elle revienne dans une régie. Mais on a encore de forts doutes. Alors pourquoi on doute ? On doute parce qu'il y a quand même, et pas que dans l'eau, des rapports extrêmement étroits entre la mairie de Paris et ses sociétés, de la mairie d'aujourd'hui.
Il y a des rapports encore aujourd'hui étroits, vous dites, entre la mairie de Paris et ses sociétés Veolia,
oui.
Suez.
La présence de la première adjointe de la mairie de Paris, donc Anne Hidalgo, qui était à la fin des années 90 la DRH adjointe du groupe Vivendi.
Monsieur Delanoë, 92 voix élues.
Bertrand Delanoë a été élu sans surprise ce matin et c'est Anne Hidalgo qui devient la première adjointe au maire.
Pour ma part, j'assumerai ma fonction dans la loyauté la plus totale à l'égard de chaque Parisienne, de chaque Parisien, quelle que soit sa conviction.
C'est difficile d'être une cadre dirigeante quelque part d'une grande entreprise comme ça qui vend de l'eau aux Parisiens et que, quelques mois plus tard, elle devient première adjointe et que l'une de ses premières responsabilités est justement, à travers sa présence dans le conseil d'administration de la société Eau de Paris, qui a pour mission de contrôler les distributeurs.
C'est-à-dire qu'elle, qui était la veille au sommet de Vivendi, elle se retrouvait quelques années plus tard,
quelques mois plus tard,
à devoir contrôler les activités de Vivendi sur Paris.
Absolument. Simplement, on constate également que lors de l'opération Paris 2012 pour les Jeux Olympiques, pour que la ville de Paris puisse obtenir, l'un des principaux sponsors était Suez. Bon,
Ils sont omniprésents à travers la publicité, à travers tout le sponsoring d'événements qui ont lieu à Paris. Évidemment, ces entreprises ne font pas ça gratuitement. Elles font ça pour essayer de convaincre les élus parisiens de ne pas rompre le contrat qu'ils ont à Paris. Parce que si ces élus parisiens de gauche décidaient de rompre le contrat, évidemment, ça aurait un impact sur les autres villes françaises qui ont délégué aussi, mais aussi sur des grandes villes de grandes métropoles étrangères, notamment ce qui se passe en Argentine, ce qui se passe en Bolivie, au Vietnam, en Indonésie.
Ça pourrait être un exemple.
Ça pourrait être un exemple qui, évidemment, pour ces entreprises, on les comprend bien, serait un mauvais exemple. Mais pour les populations pauvres et pour l'intérêt des Parisiens, eh ben évidemment, ça serait un très bon exemple pour dire eh ben, il ne suffit pas de parler en disant « on est pour le service public, on passe à l'acte ».
Si la Corse conserve un soleil d'été entre Perpignan et...
Donc là, on roule sur les berges côté Veolia.
Voilà. Et on va prendre le pont pour rejoindre Haut-de-Paris. Donc on va passer du côté de Veolia, de Suez.
On va passer devant la tour Eiffel en même temps. Vous savez combien de temps que vous travaillez chez Veolia ?
Ben, je suis rentré en début de l'année 1976 et je revenais de service militaire. Et puis, on m'a confié un peu la responsabilité de la facturation du sud de la région parisienne. Et c'est là que je me suis aperçu que les justificatifs qu'on donnait comme explication à la collectivité me semblaient pas très justes.
Qu'est-ce qui vous paraissait pas juste dans la facturation ?
Cette facturation n'était pas lisible, c'est-à-dire qu'on facturait des mètres cubes à un tarif. Est-ce que ce tarif correspondait au service que ma société, entre guillemets, rendait aux usagers ? Je pense qu'aucun usager peut le vérifier.
Et vous pouviez le vérifier
en... Moi, j'en avais quand même une sacrée idée. Pas simplement parce qu'il y avait beaucoup de bénéfices dans ma société, mais parce que moi-même, étant un professionnel, je voyais pas comment le prix était justifié. Le prix n'était pas justifié. Et surtout, je voyais également beaucoup d'élus, pour moi c'était le sud de la région parisienne, qui partaient en voyage. Alors, pour les plus importants qui allaient dans les Caraïbes ou au Brésil, en voyage d'études, comme on appelait, et puis jusqu'aux petits salariés, entre guillemets, qui recevaient...
Petit maire, vous voulez dire.
Petit maire. Voilà, petit maire ou petit directeur des services techniques, c'est-à-dire que ça allait plus loin que le maire, qui recevait quelques petits cadeaux, mais c'est un peu plus que la boîte de chocolat, si vous voulez. Parce que il fallait que ces sociétés, si vous voulez, entretiennent ce qu'on appelle des bonnes relations, pour que ces employés, ces élus, ne regardent pas trop, ne se posent pas trop de questions. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, on dirait qu'il y a une omerta là-dessus, soit parce que les élus sont totalement éloignés de ces questions-là, c'est très compliqué, ça a été compliqué à souhait.
Mais vous faisiez partie de la machine qui contribuait à compliquer les factures, non, un petit peu ?
Ah ben directement, oui. Moi, j'étais pas favorable à ça, mais bon, j'exécutais, évidemment. À un moment, je me suis dit, mais tu peux pas continuer comme ça. Et donc, dans mon syndicat, la CGT, qui est quand même un syndicat révolutionnaire qui est pour le service public, je m'attendais à être vraiment accueilli les bras ouverts. Non, ça n'a pas été trop le cas. Et je me suis aperçu que les plus hauts responsables, dont j'allais faire partie, bénéficiaient de primes extrêmement généreuses. Ils doublaient ou ils triplaient leur prime annuelle d'un salarié lambda, et c'était exclusivement réservé qu'à quelques dizaines de responsables de tous les syndicats.
La Générale des Eaux, alias Vivendi, alias Veolia, aimait beaucoup ces syndicalistes. Ces syndicalistes, tout compte fait, aimaient beaucoup Veolia aussi.
On peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, le syndicat CGT de Veolia ne propose pas le retour en régie. Ils ont tellement été favorables à ce système qu'ils ont encouragé l'actionnariat salarié. Et vous savez, l'actionnariat salarié, lorsque Jean-Marie Messier est venu, l'action a monté très 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 fort. À peu près à 140 euros, l'action. Quand Jean-Marie Messier, un an et demi, deux ans après, est parti, était redescendu à 8 euros. Vous voyez, de 140 à 8 euros. Vous voyez un peu la chute vertigineuse. Mais simplement, le syndicat le plus révolutionnaire de France qui prône le service public, mais en même temps l'actionnariat salarié à l'intérieur de l'entreprise, 80% des salariés vont souscrire des actions. Mais quand la chute de l'action s'est faite sentir, Ben, la majorité des salariés, et les petits salariés, les ouvriers employés, avaient mis leurs congés payés, leurs primes, leurs heures supplémentaires, enfin leurs économies, quoi, dans ces fonds de commun. Et donc, ils ont été ruinés, là. Donc, vous voyez, le syndicalisme comme ça, moi, c'est quelque chose... Je suis peut-être une...
Un peu archaïque.
Voilà, c'est ce qu'on me dit souvent. Il faut être de son temps. Et donc, évidemment, l'intérêt de ces entreprises, c'est d'acheter la paix sociale à un prix très abordable pour elles.
Voilà, alors vous faites partie encore, je pense, des archaïques. Les AMG, les auditeurs modestes et géniaux de la basse Suisse sont des archaïques. Et ces archaïques, ils se disent peut-être, alors comment, dis donc, moi, t'as entendu, on va remunicipaliser, nous, au niveau de notre petit village, notre ville, etc. Eh ben oui, pourquoi pas. Voilà la marche à suivre. Yves Tricard, qu'on a rencontré hier dans la Vienne, au palais sur Vienne, avec son épouse Michel, ont créé une petite assoce qui s'appelle Barrage et qui a conduit à une remunicipalisation.
Donc, si on fait le bilan de 10 années de privatisation de l'eau entre 92 et 2002, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du prix, au niveau de la qualité?
Alors, au niveau du prix, le prix a doublé entre 92 et 2002, donc le prix a été multiplié par deux. Et sur le plan qualité, le réseau n'a pas été entretenu comme il aurait dû être entretenu. C'est-à-dire que le taux de fuite, c'était quand même 33% de ce qui a été acheté.
C'est-à-dire qu'un litre sur trois...
Un litre sur trois a été jeté à la poubelle.
Et 2 litres sur 3 arrivent au robinet.
Et 2 litres sur 3 arrivent au robinet.
Ce n'est pas la peine de nous dire de couper le robinet quand on se lave les dents si on balance des tonnes d'eau à côté. Donc.
La fuite représentait 127 000 mètres cubes la dernière année. C'est-à-dire sur chaque kilomètre, chaque jour, 8 mètres cubes de flotte. Et ça représentait 46 000 euros sur l'année. C'est-à-dire que les Palaisiens ont payé 46 000 euros de fuite. C'est-à-dire que la SEUR, en tant que société privée, ne faisait pas preuve de compétence ici au Palais.
On a fait le bilan de 10 années de privatisation de l'eau par la SEUR. Le prix qui double, un tiers de fuite. Maintenant, si on fait le bilan de à peu près 5 années de remunicipalisation de l'eau, quel est le bilan quant au prix, quant à la qualité?
Alors, plus évident, c'est le prix. C'était 4 euros avec la SEUR, on est passé à 3 euros, donc c'était 1 euro de moins. Et c'est surtout la suppression de l'abonnement. Et sur la qualité, je dirais, on est passé à 94% d'entretien, donc il y a 6% de fuite.
Donc on a divisé les pertes en fuite par 6, en passant en régie publique.
5 à 6, c'est évident.
C'était une nouvelle diffusion du reportage de François Ruffin. Merci à Marc Lenné, Jacques Drapier, Martine Offert, Robert Cabet, Jean-Luc Touly, Anne Lestra, Yvan et Michel Tricard. À lire le dossier de l'eau de Marc Lémé aux éditions du Seuil, ainsi que les multinationales de l'eau de Roger Langlais et Jean-Luc Touly chez Fayard. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission « Là-bas si j'y suis ». Et à la technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Sandrine Laurent, réalisation Coy Nguyen et Raphaël Moutarde, assistante Charlotte Perry et au répondeur Charlotte Perry aussi. Et voici le numéro du répondeur de « Là-bas si j'y suis », 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.
Attire, admire, il part où? Quatre, quatre,